Nouveau disque de l'orchestre Victor Hugo, consacré aux mélodies écrites par Adèle Hugo, des mélodies sur des textes de son père. Jean-François Verdier, est-ce que c'est pas un peu le disque que vous étiez obligé de faire à partir du moment où vous aviez ces mélodies, vous, directeur musical de l'orchestre Victor Hugo à Besançon?
Alors oui, quelque part, en fait, on aurait pu imaginer effectivement que c'était une mission que le destin nous confiait. Le destin, c'est très hugolien hein, comme notion, mais là, clairement, on ne l'aurait pas fait si la musique ne nous avait pas paru intéressante et à remettre dans les oreilles de tout le monde. En fait, quand Richard Dublunion, qui a donc redécouvert ses partitions, m'a appelé, il m'a dit, bah, évidemment, je te propose ce projet-là, c'est tout à fait étonnant, mais c'est pas parce que l'orchestre s'appelle Victor Hugo, ça serait trop simple. Mais c'est par contre parce que, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'orchestres qui auraient pu se lancer dans ce genre d'aventure d'une compositrice dont l'existence même n'était pas connue, donc la musique personne ne connaissait non plus. Alors évidemment, c'est plus facile de jouer du Tchaïkovski ou du Brahms que tout le monde a déjà un peu dans l'oreille ou connaît l'existence, mais Adèle Hugo, est-ce que ça allait faire un disque sur lequel les gens allaient se jeter? C'est pas évident. Et il se trouve que nous aimons bien être utiles, c'est-à-dire qu'effectivement, notre parcours discographique commence à être riche, parce que là, je crois qu'on enregistre notre 22 ou 23e album en 7 ans. Bah, il se justifie aussi par ça, par l'utilité des objets qu'on propose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce que les autres font, pas parce qu'on n'aime pas, mais tout simplement parce qu'on considère qu'être utile, c'est faire autre chose, et que notamment la remise au goût du jour d'une compositrice oubliée, de belles musiques que personne n'avait jamais entendues, et en même temps remettre aussi en lumière son parcours incroyable et son lien avec Victor Hugo, qui effectivement a donné son nom à notre orchestre, ça nous paraissait quelque chose de tout à fait naturel et un risque qu'il fallait prendre.
Pianiste plus connue en son temps que compositrice. Quand je dis plus connue, c'est pas une notoriété de diva des concerts.
Elle a joué dans quelques salons, des choses comme ça, mais elle n'a jamais fait une carrière de musicienne. Et en fait, quand elle est partie à Guernesey, donc pour suivre son père en exil, elle n'avait que 20 ans. Et sans doute avec de grandes ambitions et probablement des très grandes ambitions artistiques, mais elle n'avait pas fait profession de ce métier-là jusque-là. Il n'y a rien qui nous indique qu'elle aurait été une pianiste très connue, mais ni même qu'elle l'aurait voulu. En fait, ce qu'on sait par contre, c'est que l'écriture l'intéressait beaucoup et la composition beaucoup aussi. Donc on peut imaginer qu'effectivement elle aurait écrit, probablement elle a écrit un espèce de roman familial qui a quand même plus de 6000 pages. Pendant le moment où elle était à Guernesey, c'était un peu le roman de la famille, en fait. Mais donc, elle avait une sensibilité à l'écriture et une facilité. Ensuite, la musique, clairement, ça l'intéressait beaucoup. Et là, on sait qu'elle avait des ambitions pour le futur, notamment peut-être d'écrire un opéra, de continuer à montrer ses œuvres au retour, parce qu'à Guernesey, évidemment, la possibilité de montrer sa musique était quand même très restreinte.
À l'origine, alors j'ose pas dire résurrection parce que ça n'avait pas vraiment disparu, même si ça a été enfoui dans des archives pendant un bon nombre d'années. Il y a Richard Dumunion. Comment avez-vous travaillé avec ce compositeur franco-suisse?
Alors, je connaissais Richard, on se connaît depuis quelques années, parce que Richard était d'abord un musicien lui-même, et donc on a même joué ensemble, lui à la contrebasse et moi à la clarinette, notamment à l'Opéra de Paris. Richard est un compositeur tout à fait actuel, qui écrit de façon tout à fait actuelle, mais très intéressé par des grandes figures du passé. Il a écrit notamment des choses sur Napoléon. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique avec un sens plus large. Donc, l'écriture, comme celle de Victor Hugo, le passionne depuis longtemps. La figure de Victor Hugo le passionnait. Il a décidé d'aller visiter les maisons de Victor Hugo, notamment celle de Guernesey. C'est à cette occasion-là qu'il a redécouvert les partitions d'Adèle Hugo. Et puis ensuite, il a pensé à nous pour nous proposer ce projet-là. Ça a pris quand même pas mal de temps. Il s'est personnellement très impliqué dans cette résurrection, effectivement, de l'œuvre d'Adèle Hugo, qui est très touchante parce que c'est non seulement intéressant, évidemment, pour l'historique, mais en même temps, il y a un côté extrêmement romantique qui va parfaitement avec le sens de tout ce qu'écrivait Victor Hugo. Mais tout ça n'aurait eu aucun intérêt si la musique n'avait pas été bien. Et évidemment, on ne l'aurait pas enregistré si c'était juste une belle histoire. Donc, il y a à la fois la musique, à la fois la redécouverte, et à la fois le fait d'avoir cette espèce d'ellipse temporelle qui fait qu'on perd des partitions et qu'on les retrouve quasiment miraculeusement un jour. Et c'est grâce à Richard qu'on a pu fabriquer ce disque maintenant.
Revenons vers la redécouverte, justement, par Richard Dumunion. Lorsque vous avez eu l'occasion de présenter ces pièces en concert à Besançon, à l'auditorium du Conservatoire, il avait raconté cette aventure-là, car c'en est une au micro de BFC Classique.
J'étais à Guernesey en 2004 pour l'occasion d'un festival international Victor Hugo, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait des commandes à des compositeurs d'aujourd'hui sur des textes de Victor Hugo. Et lorsque j'avais visité la maison Hauteville House, qui est cette magnifique maison qui surplombe le port à Guernesey, on m'a dit, mais vous savez, on a ici dans une malle des manuscrits de Adèle Hugo, la fille de Victor. Et on ne sait pas ce que ça vaut. Est-ce que ça vous intéresserait de regarder? Alors, moi, j'étais très étonné d'apprendre que Adèle Hugo avait écrit de la musique, puisqu'on n'en fait pratiquement nulle part mention dans ses biographies, alors qu'on sait qu'elle était pianiste, même d'un très bon niveau. Et la conservatrice m'a dit si, au cours des années, on avait montré 2-3 fois, une fois un musicologue qui avait l'air de trouver ça médiocre. Et en parcourant ces pages qui étaient très éparses, il y avait beaucoup de feuilles volantes, beaucoup de choses pas terminées, j'ai découvert un corpus d'une quinzaine de mélodies pour voix et piano, toutes sur des textes de son père, et quelques-unes des mélodies sans paroles qui étaient complètes, qui s'avèrent être vraiment d'une grande valeur musicale et évidemment historique, puisque le personnage d'Adèle Hugo est ce personnage de femme créatrice dont le destin fut sacrifié à la fois à cause d'un père très écrasant et puis évidemment ces problèmes d'amour que l'on connaît malheureux.
Comment se présente alors cette musique d'Adèle Hugo que vous avez retrouvée à Guernesey?
Ça a été tout un travail pour moi d'inventaire puisqu'on m'a confié la charge justement de m'y intéresser, de m'en occuper. Ce sont donc les maisons Victor Hugo à Guernesey et à la place des Vosges à Paris et leur directeur Gérard Audinet qui m'ont confié les photographies de ces manuscrits sur lesquels j'ai pu faire tout un travail de recherche parce que beaucoup de choses sont incomplètes, beaucoup de choses sont éparses, beaucoup de pages, on ne sait pas ce que c'est exactement, il n'y a parfois pas de texte, et parfois c'est gribouillé. Donc j'ai découvert qu'il y avait pas mal de pièces qui n'étaient pas d'Adèle Hugo, qu'elle avait recopiées elle-même de sa main. Mais au fil du temps, sur à peu près 2 ans de travail, on découvre 14 mélodies pour voix élevée ou voix médium et piano. Les parties de piano sont très simples, mais très bien écrites. On voit que c'était une très bonne pianiste. Et le style est assez galant, typique de cette deuxième moitié du 19e, assez romantique, mais en même temps teinté d'une nostalgie un petit peu indescriptible, qui est vraiment à elle. Alors c'est un univers entre Gounod et Bizet, le jeune Bizet peut-être, avec l'influence de l'or leur maître qui était à Lévis, et des petits relents de musique un peu aussi, peut-être un peu de Rossini en effet, ou de Spontini, Meyerbeer, enfin les compositeurs qui étaient à la mode à l'époque. Et chose étonnante, on a les premières mises en musique de chansons des Misérables, de chansons de Gavroche notamment.
Jean-François Verdier, Richard Dubignon est venu vous voir avec des partitions toutes prêtes, orchestrées, ou est-ce que vous avez travaillé ensemble sur la réalisation de ces orchestrations?
Alors les orchestrations, déjà, un petit mot dessus. Pourquoi des orchestrations? Parce que en fait, les œuvres d'Adèle Hugo sont toutes des mélodies, donc elles sont toutes basées sur des textes qui sont tous, évidemment, j'allais dire, de son père, parce que sans doute, évidemment, à 20 ans, la matière très riche de l'écriture de son père et le fait de vivre quotidiennement avec lui devait lui indiquer qu'il fallait, fallait commencer par là.
En même temps, Jean-François Verdier, on a tous appris en classe terminale et même avant que Victor Hugo aurait interdit de mettre de la musique sur ses vers. Donc on suppose là qu'elle a eu quand même l'autorisation de papa.
Non seulement elle a eu l'autorisation de papa, mais il lui a même écrit des textes exprès pour qu'elle puisse les mettre en musique. Et en fait, ça relativise beaucoup ce qu'on nous avait appris à l'école, c'est-à-dire que peut-être que c'était quelque chose, un jugement un peu trop hâtif. Victor Hugo, en fait, n'était pas du tout contre la carrière future de sa fille en matière de musique. Il lui a même donné des conseils aussi pour les éditions, en disant que tel éditeur n'était pas assez bon pour elle, qu'il fallait viser plus haut, qu'il fallait faire autrement, etc.
Mais surtout, on peut imaginer que Victor Hugo, qui, on le sait, avait des projets aussi autour de la musique, notamment avec Berlioz, on peut imaginer que Victor Hugo, quand même, se considérait comme un aigle en matière de littérature et ne voulait traiter qu'avec des gens de son niveau. Or, en fait, ne pas mettre de la musique sur ses vers, ça veut dire que n'importe qui ne pouvait pas mettre de la musique sur ses vers.
Jean-François Verdi, je me permets presque d'interroger le musicien de l'orchestre de l'Opéra de Paris, que vous êtes aussi à vos heures. On sent quand même une certaine influence de l'opéra du 19e siècle, ou de l'opérette même, dans les mélodies qui sont proposées et dans la manière dont elles sont réalisées.
Oui, c'est tout à fait juste. De toute façon, c'est très logique, puisque en fait, c'est cette musique-là qu'elle avait dans l'oreille, Adèle, quand elle... Il n'y avait évidemment pas de radio à l'époque, il n'y avait non plus pas de disque, donc il n'y avait que la musique qu'elle a pu entendre en direct ou sur partition. Or, cette musique-là qui était disponible quand elle était encore en ville et pas à Guernesey, ou sur les partitions, c'était forcément la musique qu'on écoutait à cette période-là. Et donc forcément, oui, les grands opéras français de l'époque, mais aussi les opérettes, et aussi notamment toute la musique qui était précédente, c'est-à-dire la musique pour piano, ben, la mélodie, toutes ces choses-là qui font que Adèle a écrit au départ dans ce goût-là, c'est-à-dire qu'elle n'était pas, se prétendait pas être une novatrice qui avait des idées particulières de tout casser complètement ce qui existait, mais au contraire, pour l'instant, au moins, entre ses 20 et ses 26 ans, quand elle a écrit, elle prenait la musique telle qu'elle était et elle la transformait à sa vue, à sa façon. Et c'est ça qui est touchant parce que, en fait, ces partitions ne sont pas du tout des copies de quelque chose qu'elle aurait pu écouter ailleurs. On ne peut pas dire, tiens, bah oui, bon, y a pas beaucoup d'idées, mais ça vient d'ailleurs, elle a fait ça. En fait, non, les moyens sont les mêmes, mais on sait que c'est de la musique qui vient d'elle-même, de manière très directe, très fraîche. On n'est pas gêné par un métier, si vous voulez, de copiste ou de... Voilà, on voit que c'est écrit pour elle-même, très simplement, mais de manière très directe, très touchante, très fraîche et avec un talent indéniable.
Douce vie, lorsque nous étions si jeunes tous deux, et que nous n'avions aucun d'autre envie que d'être bien mis, d'être amoureux. Lorsqu'en ajoutant votre âge à mon âge, nous ne comptions pas à de 40 ans, et que dans notre humble et petit ménage, tout même les vies nous étaient printemps. Bonjour, Manuel était fier et sage, Paris s'asseyait de sa banquée, c'est la foudre et votre corsage avec une épingle où je me piquais. Tout vous contemplait, avocat sans cause, quand je vous menais ce grade au dîner. Vous étiez jolie, au point que les roses vous faisaient l'effet de se retourner. Je les entendais dire, elle est belle comme elles sont beaux, quels cheveux à flot, sous son mantelé, elle cache l'île, souvent des charmants. J'irais avec toi, pris en ton bras souple, mais pas sans croyer que l'amour charmé avait marié pour notre couple de bon avril en mois de mai. Nous vivions cachés, comptant portes closes, dévorant l'amour, bon fruit défendu. Ma bouche n'avait pas dit une chose que déjà ton cœur avait répondu. La Sorbonne était l'endroit bucolique où je t'adorais du soir au matin. C'est ainsi qu'une âme amoureuse applique la carte du tendre pays latin. Au place Maubert, au place Dauphine, pendant le tonifre et printanier, tu tirais ton bas sur ta jambe fine, je voyais un astre au fond du grenier. J'ai fort lu Platon, mais rien ne m'en reste, mieux que Malebranche et que Lamennais. Tu me démontrais la beauté céleste avec une fleur que tu me donnais. Je t'obéissais, tu m'étais soumise au grenier doré, te lasser, te voir aller et venir, dénouement chemise, pilote en rongeur à ton vieux miroir. Et qui donc pourrait perdre la mémoire de ces temps d'aurore, une firmament, plus beau de fleurs que d'un. masquer la vitre avec ton jupon. Je brûlais le bol de terre de pipe et je te donnais la tasse au Japon. Et ces grands malheurs qui nous faisaient rire, ton manchon brûlé, ton beau a perdu, et ce cher portrait du divin Shakespeare, qu'un soir pour souper nous avons vendu. J'étais mendiant, mais toi, charitable, je baisais au vent tes bras frais et ronds, dont tes folios nous servaient de table pour manger gaiement un sang de marron. La première fois, quand mon joyeux bouche, je pris un baiser à ta lèvre en feu, quand tu t'en allais, tes parfums et roses, je risais tout pâle et je crus en Dieu. Nos bonheurs sans nombre et tous ces fichus changés en chiffons. Oh, que de soupirs de nos cœurs pleins d'ombre se sont envolés dans les cieux profonds.
Jean-François Verdier pour enregistrer ces mélodies d'Adèle Hugo, donc sur des textes, ce sont pas, il y a quelques instrumentaux aussi sur le disque. Vous avez fait appel à des complices qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre à l'occasion de disques précédents. Karine Dès, Sandrine Pio, Isabelle Druet, je m'arrête là.
Alors, on a fait quelques disques, notamment deux avec Sandrine Pio, avec Karine Dès, avec Isabelle, qui étaient un peu dédiés à leur voix, c'est-à-dire à leur personnalité de chanteuse, à leur goût, à leur envie, et qui étaient forcément des disques qui les mettaient en valeur. Et là, on s'est dit qu'en fait, Adèle Hugo avait été privée de lumière pendant assez longtemps et que ça aurait été injuste de la cacher derrière une seule personnalité d'artiste, alors qu'il était plus intelligent d'associer un groupe d'artistes qui se mettaient en ordre de bataille pour défendre une compositrice oubliée. Et donc, quand on a proposé à ces chanteuses et à des gens qui n'avaient pas chanté encore avec nous, comme Axel Fagnot ou Laurent Naouri par exemple, Anaïs Constant ou le chœur de l'Opéra de Dijon, de se joindre à ça, ça devenait une œuvre collective pour Adèle Hugo, et donc c'est elle qui était enfin en lumière.
Est-ce que vous avez dû convaincre ces solistes ?
Non, ce qui était simplement difficile, c'était de leur demander de nous faire confiance, parce qu'en fait les partitions, on ne pouvait pas leur montrer. Les partitions sont restées secrètes jusqu'au moment où on a eu le droit de leur envoyer. J'aurais juste dit, faites-moi confiance, ça sera très bien, ça ira très bien pour vos voix, ça se passera formidablement bien, mais je ne peux pas encore vous les montrer. Et ensuite, il a fallu trouver des calendriers pour réunir tout ça, parce qu'évidemment, c'est plus difficile quand on a autant de chanteurs qui font tous des carrières différentes, de les réunir dans un temps serré, que quand on n'a qu'une seule personne à suivre. Donc évidemment, c'était un disque un peu compliqué dans le montage, mais on s'est dit justement que ça valait le coup.
Thank you. demandons d'oublier les proscrits et de rendre sa gloire à la France imbécile. Mais de rendre sa gloire à la France imbécile. Et laisse-nous mourir, nous briser et meurtrir.
Jean-François Verdier, une vingtaine de plages sur ce disque, quelques pièces instrumentales, et puis donc une quinzaine de mélodies. Est-ce que vous avez tout enregistré ou est-ce qu'il en reste encore dans les tiroirs de Richard Dubignon, selon que vous puissiez le savoir, ou ailleurs ?
À ce que nous connaissons, nous avons tout enregistré. Tout est sur ce disque-là, c'est l'intégrale de ce qu'elle a écrit. Et sauf redécouverte incroyable à nouveau, qui est toujours possible hein, dans la vie, mais a priori, on a tout ce qu'elle a écrit. Et les œuvres instrumentales qui sont sur le disque sont ce qu'elle appelle aussi des mélodies, sont des mélodies sans paroles. Donc c'est un disque entier de ce qu'elle appelait elle-même des mélodies, toujours sur des textes de son père, alors d'un caractère très différent. D'ailleurs, c'est à noter que c'est la première à avoir mis en musique Les Misérables, qui en fait un grand succès beaucoup plus tard, et une comédie musicale à succès, mais c'est la première qui avait écrit de la musique. Et La mort de Gavroche à la fin, qui est particulièrement réussie et touchante, sur le plan musical évidemment. C'est comme si on avait retrouvé un petit trésor, qui presque par miracle rentre entièrement sur un disque.
Le trésor en question donc, c'est ce disque, Jean-François Verdier, chez Alpha Classics. Comment allez-vous faire vivre cet héritage-là ?
Alors, nous avons joué une seule fois, en fait, l'intégrale des mélodies, et ce n'était ni à Besançon, ni dans la région. C'était au Festival Berlioz, il y a 2 ans. Bruno Messina, le directeur du festival, avait tenu absolument à ce que la première intégrale de ce cycle-là de mélodies soit donnée chez lui. Le Festival Berlioz est très attaché à la musique romantique, évidemment à Berlioz, mais à tout ce qu'il touche, donc, et aussi à Hugo. Et ça a été un formidable succès. On était un peu dubitatif de se dire on va faire une soirée entière au milieu de musique très connue avec uniquement du Adèle Hugo. Et en fait, ça a été non seulement complètement plein, mais très très bien reçu. Donc effectivement, c'est une musique qui pourrait être maintenant transportée. Moi, je l'ai rejouée ailleurs sans mon orchestre, mais toujours pas sous forme d'intégrale, mais avec des extraits. On espère surtout que ce disque-là fasse entrer Adèle Hugo dans le répertoire de ce que les chanteuses et de ce que les orchestres puissent jouer de par le monde, parce qu'en fait, c'est le meilleur cadeau qu'on pourrait lui faire. De pas le garder pour nous, de pas se l'approprier, mais au contraire, d'avoir fait ça pour tous les gens qui aiment la musique.